Bonjour, c'est Olivier Prêtre et Francky à la technique et à la réalisation. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la planète pour Mission Planète Terre. Je vous propose de m'accompagner aujourd'hui au cœur du village de Beautir dans le Valais suisse. Nous avons rendez-vous au musée valaisan des Bis, dans l'univers fascinant des canaux d'irrigation traditionnels de l'équipe romaine jusqu'à nos jours. Nous sommes reçus par Gaëtan Morard. Gaëtan Morard est ethnobiologiste et permaculteur. Il est aussi le directeur conservateur et responsable scientifique du musée valaisan des Bis depuis 2015. Gaëtan Morard est également président de l'association des Bis du Valais depuis 2019. Bonjour Gaëtan Morard.
Bonjour.
Alors, merci de nous recevoir dans votre musée. Pouvez-vous nous parler donc de l'origine de ce musée?
Et oui, alors le musée a fêté ses 10 ans dernièrement. Il a maintenant, c'est sa 13e année. Donc c'est un musée qui est assez récent, contrairement à l'histoire des Bis qui remonte aux Romains et au Moyen-Âge. Et c'est évident que avec le patrimoine du Valais, il y avait un intérêt aussi à avoir un musée qui représente ce thème des Bis. Évidemment, toute cette histoire riche des 700-800 dernières années, mais aussi les thèmes actuels et puis les questions de l'avenir de ce patrimoine et de ces canaux d'irrigation.
Alors, qu'est-ce que c'est que les Bis, Gaëtan Morand ?
Effectivement, le mot Bis, il est tout à fait local, il est valaisan, et vient d'un mot français qui est le biais ou le bif. Donc, en gros, un Bis, c'est un canal d'irrigation qui va détourner l'eau d'un glacier, d'une rivière, généralement en altitude, pour l'amener sur les coteaux pendant la saison où c'est nécessaire pour l'agriculture. Et c'est des canaux d'irrigation traditionnels qu'on va retrouver dans d'autres régions du monde. On en trouve évidemment en Europe, dans le Val d'Ost, on en trouve en France, dans le Briançonnais par exemple, et on en trouve au Népal, et on pense tous aussi aux canaux des Aztèques et des Incas par exemple d'irrigation. Donc c'est un patrimoine qui est à la fois très local en Valais avec son importance, mais qui a aussi un lien avec différentes régions du monde.
Alors votre association, en fait, elle a pour but de préserver ces Bis ?
Oui, tout à fait. Alors il y a le musée a trois fonctions. C'est conserver tout d'abord le patrimoine, que ce soit évidemment le patrimoine documentaire ou les objets, mais aussi les Bis en soi, qui est plus le rôle de l'association des Bis du Valais, de faire une forme de lobbying et de rassemblement des entités qui concernent les Bis en Valais, et de aider aussi à préserver les Bis sur le terrain. Et après, c'est évident qu'un musée, on a aussi des missions qui sont de transmettre ce patrimoine de différentes manières, avec des expositions, en l'occurrence avec un documentaire aussi, par exemple, avec des visites, et puis aussi de continuer à faire de la recherche scientifique sur des thèmes, soit de l'histoire des Bis, soit des thèmes actuels et futurs.
Alors, qui entretient les Bis ? C'est des bénévoles ou c'est des employés ?
Alors c'est une très bonne question et il y a pas de réponse simple parce que finalement on a encore 200 bis d'utilité agricole en Valais. Ça concerne 80% des surfaces agricoles sont toujours irriguées par l'eau des bis. Et ce qui veut dire qu'il y a différentes entités. Historiquement c'était des consortages, donc des formes de clubs d'utilisateurs de la ressource qui se mettaient ensemble. Ces consortages existent toujours en Valais, ils font aussi partie du patrimoine. Évidemment ça concerne des paysans mais aussi de plus en plus de bénévoles. Mais avec l'évolution des techniques de construction, des risques aussi autour de ces canaux, maintenant on a beaucoup de communes, on a l'État évidemment qui a aussi de l'aide, que ce soit en termes de subventions, en termes de compétences, ou aussi des entreprises professionnelles qui font certains travaux sur les Bis au vu des risques et des enjeux.
D'accord. Est-ce que donc le réchauffement climatique et la fonte des glaciers et peut-être le manque d'eau dans les années à venir a une importance donc sur les Bis ? Est-ce qu'on va pouvoir toujours les préserver ? Est-ce qu'elles seront toujours là ?
Alors c'est vrai que cette question des changements climatiques, elle a un impact assez direct sur les Bis. Étonnamment, il y a une période où il y aura plus d'eau dans les Bis parce que les glaciers fondent. Mais il y a aussi, avec le changement climatique, on voit des éboulements plus fréquents. Donc il y a aussi plus d'entretien dans ces régions de montagne qui sont liées à ces changements pour l'instant. Mais pour l'instant, la question de l'eau, par contre, il y en a plus qu'avant parce que les glaciers fondent. Mais en se projetant dans les 50-100 prochaines années, on estime que les glaciers vont disparaître en Valais d'ici 2100 maximum. Ce qui veut dire qu'on aura deux problèmes. Le premier, c'est le stockage de l'eau. où il faudra trouver d'autres solutions, peut-être des barrages ou des étangs par exemple. Et puis la question surtout de la gestion de l'eau, c'est-à-dire que pendant l'été, on aura des conflits potentiels entre les utilisateurs qui ont besoin de l'eau au même moment, et c'est le moment où il manque l'eau. Et c'était le rôle de Cebis, hein, d'aller chercher l'eau là où elle est et de l'amener pendant les périodes où il y a des besoins. Et c'est le rôle que vont reprendre très probablement les BIS, mais à une autre échelle. On ne peut plus gérer les BIS à l'échelle du consortage ou de la commune. On devra les gérer entre communautés de communes, à l'échelle du bassin versant par exemple, voire même à l'échelle du canton. Donc élargir aussi cette capacité à stocker et à répartir l'eau.
Est-ce qu'il y a déjà des problèmes entre les utilisateurs? Est-ce qu'il y a déjà des conflits entre les utilisateurs? Et vous avez suffisamment d'eau? Comment ça se passe? On se réunit autour d'une table et on se dit, voilà, moi j'en ai besoin pour telle période, et toi, comment ça se passe?
Alors oui, effectivement, il y a quelques conflits. On parle pour l'instant plutôt de tensions, parce que les conflits démarrent par des tensions, mais ils peuvent se transformer. Alors évidemment, il y a une pression sur l'eau entre utilisateurs. Dans l'idéal, c'est on se met autour d'une table, et ça c'est encore le cas pour les consortages. Donc quand c'est des utilisateurs pour l'irrigation par exemple, on va se mettre autour d'une table et on va répartir l'eau. Mais maintenant, on a d'autres utilisateurs de l'eau qui se sont rajoutés. C'est-à-dire que sur une même rivière, on a évidemment l'eau potable, l'eau pour l'irrigation, etc. Mais on a maintenant l'eau pour l'hydroélectrique avec les barrages. Et puis en Suisse, on a aussi un droit à l'eau pour les poissons et la biodiversité, ce qu'on appelle les débits résiduels des barrages. Ce qui veut dire que maintenant, les enjeux, ils sont beaucoup plus larges. Ils dépassent même le Valais en termes de financement, par exemple, et de vente de l'énergie. Mais ça veut dire qu'on a des acteurs qui sont les sociétés hydroélectriques, les cantons communes, les agriculteurs et la biodiversité qui est défendue par des ONG, par exemple. Où, évidemment, là, l'échelle de discussion, elle est plus grande qu'une table, si on veut.
Du coup, ça me fait penser à une question. Est-ce que les utilisateurs payent? Est-ce que vous leur faites payer ce service?
C'est une excellente question, ça ramène à la valeur de l'eau. Les utilisateurs ne vont pas payer l'eau, ils vont payer les frais d'entretien pour amener l'eau, etc. Pour l'instant, dans un consortage. Maintenant, à une plus large échelle, c'est très probablement les directions qui sont prises. On commence à discuter de priorisation des usages et de valeur de l'eau. Est-ce que l'eau potable, l'eau pour l'agriculture ou pour la biodiversité a la même valeur que l'eau pour les loisirs, les canons à neige? C'est évidemment des outils qui sont en train d'être discutés. Au niveau cantonal, c'est cette valeur de l'eau. Pour l'instant, le but, c'est que l'eau soit, c'est évident que ce soit un bien commun, un bien public, donc qu'elle soit, l'eau minimum soit accessible à tout le monde. Par contre, pour certains usages, c'est probable que la facture va augmenter.
Gaëtan Morin, est-ce que vous êtes d'accord pour nous accompagner dans une visite? Alors, on imagine qu'on rentre avec les auditeurs d'IDFM Radio dans votre musée. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Qu'est-ce qu'on y voit?
Oui, alors au musée, déjà, vous rentrez dans une maison du 17e qui a plus de 400 ans d'histoire. Donc le lieu est déjà très intéressant à visiter, il est déjà très beau. Et puis on a une scénographie permanente dans l'exposition, c'est 10 salles à thème, avec l'histoire, les techniques de construction, les techniques d'irrigation et les consortages par exemple. Et puis chaque année, on fait une exposition temporaire sur des thèmes. On a évidemment fait sur le thème des glaciers. Cette année, ce sera sur la mesure du temps, comment on mesure le temps d'utilisation de l'eau quand on n'a pas de montre et de clocher, par exemple. Donc ça, c'est des expositions à thème. Et puis chaque année, on a aussi une exposition artistique. Cette année, ce sera autour du son, autour des bis et des sons. Et puis, on a aussi tout un parcours adapté aux plus jeunes, aux familles, aux écoles et aux enfants, qui vont découvrir les mêmes thèmes, mais avec des jeux en bois qui sont adaptés, avec un dossier pédagogique et des jeux pour poursuivre la visite à la maison ou à l'école, et profiter aussi d'un niveau qui est plus adapté au jeune public.
D'accord. Et pour les jeunes, est-ce que vous avez une scénographie, je crois, interactive?
Oui, tout à fait. Alors ouais, on a basé ça sur l'absence de technologie, parce qu'on estime que la jeune génération a déjà assez accès à la technologie. Donc c'est plutôt des jeux interactifs avec des plateaux en bois. On doit reconstruire un bis, par exemple. On va refaire le parcours de l'eau. On va refaire l'histoire des bis avec un puzzle aussi. Et puis pour les consortages, on a fait un jeu de loi coopératif où on peut gagner ou perdre tous ensemble, en fait. Donc c'est autour de ce genre d'interaction que les jeunes vont pouvoir découvrir l'univers des bis au musée.
Mais c'est super. Donc c'est ouvert aux scolaires du Valais?
Tout à fait, oui. Alors on est présent dans les écoles. Les écoles viennent chaque année aussi au musée, tout à fait. Nous, on est ouvert donc de avril à novembre, parce qu'on est dans une maison du 17e, donc on est fermé en hiver, quand de toute façon les bis ne sont pas en eau. Donc c'est vrai qu'à partir de avril, mai, juin, on accueille très souvent les classes d'école du Valais.
D'accord. C'est pas très loin de Sion?
C'est à 15 minutes de Sion en voiture, ouais, tout à fait, avec une ligne de bus qui est tout à fait accessible. Il y a des bus presque chaque demi-heure. Donc on peut en profiter aussi pour venir en transport public et faire un bis qui est autour du musée. Le musée propose aussi un chemin du musée qui reprend trois bis de la commune, qui sont à des époques différentes. Donc on peut se refaire l'histoire des bis aussi en vrai. Et quand il fait trop mauvais, ben on peut profiter du musée avec des vidéos. On a beaucoup de documents vidéo qui permettent de découvrir les bis de différentes manières, avec des objets, avec des documents papier, des expos, des sons, des vidéos, pour élargir en fait cette compréhension, soit avant, soit après une randonnée sur un bis.
D'accord. Depuis 2015, c'est ça, vous êtes sur ce musée ?
Oui, le musée a ouvert en 2012 et je suis le responsable depuis 2015, effectivement, ouais.
D'accord. J'imagine que vous êtes heureux.
Oui, oui, tout à fait. Je suis extrêmement heureux de travailler ici. C'est évident qu'on a des défis dans un petit musée, des défis de ressources humaines et financières. Mais par contre, le thème est extraordinaire. Il y a 700 ans d'histoire. C'est une porte d'entrée très positive, je trouve, dans l'univers de l'eau, dans un monde qui est assez anxiogène par rapport au futur. On a un potentiel de discussion qui part de quelque chose de plutôt positif. Et puis, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que, en fait, on vit la quatrième génération de construction des bis depuis les Romains. L'année passée et l'année d'avant, le Val d'Anniviers, la commune d'Anniviers, a reconstruit deux bis, dont le bis de Saint-Luc, qui est présent dans le documentaire. Et ça fait que c'est la quatrième génération, quatrième étape, si on veut, de boom de construction des bis. Donc, on voit que les bis sont non seulement un porteur d'histoire, mais aussi porteur de potentiel pour le futur et les défis, que ce soit changement climatique ou les défis sociaux qu'on va rencontrer.
Alors, vous me permettez justement là, de faire une transition, puisque vous êtes aussi co-auteur avec Yves Maga du film « Si les glaciers ne revenaient pas », qui a remporté le second prix du Festival international du film sur les glaciers en décembre dernier à Genève. Et je vous propose qu'on se retrouve après une pause musicale avec Yves Maga et toujours vous-même, Gaëtan Morard. À tout de suite.
Avec plaisir.
Them things that couples doing in love, you know, walks on the beach and stuff, you know, things that lovers say and do. I love you, boo, I love you too. I miss you a lot, I miss you even more. That's why I flew you out when we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I would break plans, even though I had legitimate reasons.
Bullshit.
You know I have to make them dividends.
Bullshit.
How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the set. Shut up.
We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy. I'm trying to be your lady. I think I'm going crazy.
Why does emotion gotta move so fast? Love is progress if you could make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking it slow?
So why is it got to be so damn tough?
Cause fools and lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. Girl, it's a mission trying to get you to listen. Humanity, each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell's going down? Too much of the bickering, kill it with the sound and
Shut up, just shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy.
Why did you stop trying?
I never been a quitter,
but I do deserve better.
Believe me, I will do bad. Let's forget the bad, start this new play.
Why? Cause it's the same old routine, and then next week I hear them scream.
Girl, I know you're tired of the thing to say.
You're damn right, cause I heard them lame damn excuses just yesterday.
That was a different thing.
No, it ain't.
That was a different thing.
No, it ain't.
That was a different thing.
It was the same damn thing, same ass excuses. Boy, you're useless. Whoa!
IDFM Radio, le média valdoisien.
Nous nous retrouvons toujours dans le Valais suisse, au musée des Bis. Nous sommes toujours avec Gaëtan Morard, le directeur du musée, qui est aussi co-auteur avec le réalisateur et journaliste Yves Maga du film « Si les glaciers ne revenaient pas ». Bonjour Yves Maga.
Oui, bonjour.
Alors Yves Maga, racontez-nous cette histoire avec les Bis. Comment vous est venue l'idée d'être co-auteur avec Gaëtan Morard et de faire ce film sur les Bis?
Bon, c'est une vieille histoire pour moi, les Bis et les glaciers. Il faut dire que toute personne qui fait un peu de randonnée dans le canton suisse du Valais est immédiatement frappée par ces Bis qui sont très visuels, accrochés souvent à des parois rocheuses incroyables, qui datent en plus pour la plupart de la fin du Moyen-Âge. Et aussi, ce sont des sentiers de randonnée extraordinaires parce qu'ils ont une pente assez douce. Donc, c'est quelque chose d'à la fois sympathique et puis très visuel sur le plan cinématographique. C'est vrai que lorsque mes enfants étaient petits, on allait très souvent se promener le long des Bis. Ils pouvaient toucher l'eau, ils pouvaient même, au Bis du Trien par exemple, toucher les glaciers, ce qui n'est malheureusement plus du tout possible maintenant, puisque le glacier, comme à peu près tous les autres, est remonté très loin. Et puis ce sont des lieux chargés d'histoire, puisque je parle du Bis du Trien qui se trouve juste au-dessus de Chamonix, mais du côté suisse de la frontière. Il y a une anecdote sympathique, c'est que l'eau de ce Bis était aussi utilisée, ou la glace plutôt du glacier qui est au-dessus du Bis était utilisée jusque, je crois, vers en gros la Deuxième Guerre mondiale, pour être envoyée dans des caisses en bois isolées avec de la paille jusqu'à Marseille où ça rafraîchissait le pastis. Donc il y a plein d'histoires à raconter. Un peu plus tard, pour la télévision publique suisse, ça fait déjà un moment, j'avais réalisé, dans le cadre d'une émission dédiée à la montagne qui s'appelle « Passe-moi les jumelles », un film documentaire sur un peu l'historique des Bis, dans lequel j'avais mis en scène un ami à moi qui est un ethnologue burkinabé, avec tout son vécu sur la recherche de l'eau et la sécheresse. Et il rencontrait ici, en Valais, en Suisse, des gens préoccupés aussi, ils ne s'y attendaient pas, et moi non plus d'ailleurs, préoccupés aussi par ces questions de sécheresse sur les coteaux desséchés des montagnes des Alpes, parce qu'on croit qu'il y a beaucoup d'eau dans les Alpes. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup à certains endroits, mais il n'y en a pas partout ailleurs. Ce qui fait que l'ethnologue burkinabé et puis le responsable de ces Bis, de ces canaux d'irrigation suisses du Valais, tout à coup ont oublié la caméra, ils échangeaient avec passion sur cette thématique, chacun avec son accent, le burkinabé et le valaisan. Bref, ce qui fait que petit à petit, je suis entré en contact avec le musée Valaisan des Bis, dont vous avez entendu le directeur Gaëtan Morard. Et nous nous sommes dit, il y a 2-3 ans, tiens, pourquoi ne pas faire un film sur les Bis, en cette période surtout aussi de changement climatique. Donc avec l'aide d'une société de production de Genève, Edip Film, on a abouti à ce film « Si les glaciers ne revenaient pas ». Pour les initiés, le titre, c'est un peu une parodie du roman d'un auteur suisse, assez connu en Suisse, Charles-Ferdinand Ramu. Son roman s'appelle « Si le soleil ne revenait pas », et nous, on a utilisé son titre « Si les glaciers ne revenaient pas ». Ce qui est un petit peu un petit mensonge, parce qu'on sait qu'ils ne reviendront pas d'ici un siècle, il n'y en aura vraisemblablement plus. Enfin bon, c'est une thématique passionnante et on a essayé de la retransmettre avec tous les interlocuteurs qu'on a pu rencontrer le long des Bis et au pied des glaciers.
D'accord, ben justement, oui, c'est vrai que d'ici la fin du siècle, on le sait maintenant, on en est certain, la plupart des glaciers alpins auront disparu. Alors, que deviendront les bis valaisans, ce réseau d'irrigation traditionnel, lorsque tous les glaciers auront disparu?
Alors, c'est la question que nous posions à nos interlocuteurs, et la plupart nous disaient, bon, ils vont subsister parce qu'on aura toujours besoin d'eau. Simplement, il faudra les adapter à une situation qui sera différente, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus forcément aller rechercher l'eau au pied de la glace, ou au pied des torrents provenant des glaciers. Il faudra trouver une autre solution. Ça commence déjà, il y a des bassins de conservation qui sont élargis, qui existaient déjà certains depuis longtemps, mais qui sont élargis, d'autres sont prévus, d'autres sont en construction. On ne se retrouve pas dans la même problématique qu'il existe en France avec les bassines où on se plaint de risque de privatisation de l'eau. Là, c'est plutôt toujours dans cette optique un peu communautaire, comme la gestion des bisses elles-mêmes, que généralement ces bassins ou ces agrandissements de bassins sont prévus. Après, il y a d'autres projets qui visent à mettre en réseau les amenées d'eau naturelle de certaines rivières qui permettraient de faire transporter de l'eau d'un côté à l'autre en fonction des besoins. Les bisses vont certainement continuer d'exister, c'est une nécessité puisque, comme ça a été dit tout à l'heure par Gaëtan Morard, 80% de l'agriculture valaisanne est encore irriguée avec ce système médiéval, mais il faudra trouver des astuces technologiques pour s'adapter au changement climatique. Donc bassins, mise en réseau, il y a même par exemple un projet impressionnant dans le cadre d'un institut de recherche Blue Arc qui vise à utiliser de l'imagerie satellitaire pour repérer les prairies qui manqueraient d'eau, et du coup cette communication satellite pourrait être transmise à des centrales de gestion qui utilisent ces bisses médiévaux. Je trouve ça incroyable de mélanger des techniques médiévales à de l'imagerie satellite. Bon, c'est encore un peu de la musique d'avenir, mais disons, il y a des projets en cours.
Je sais que votre film a beaucoup circulé, et comment on peut le voir aujourd'hui?
Alors, le film a été diffusé déjà deux fois par la RTS, la télévision publique suisse. Il a été projeté à Genève dans le cadre du Festival international du film sur les glaciers. Et pendant les mois de mars et avril, il sera projeté une quinzaine de fois dans un festival franco-suisse, le Festival du film vert, dans de nombreuses régions de Suisse, mais aussi à Chamonix, notamment en marge de l'année internationale de préservation des glaciers qui a été déclarée par l'UNESCO et pour laquelle la ville de Chamonix organise toute une série d'événements. Le film a déjà été projeté aussi dans les Hautes-Alpes, près de Gap. Voilà, il sera projeté aussi dans un festival de cinéma pour des questions agricoles dans la région lyonnaise, le Festivache. Pour l'instant, c'est au travers des festivals que l'on peut le voir, car il ne se trouve plus à disposition sur le site de la télévision suisse.
D'accord. Alors, quels sont vos projets? Je sais que, non, on va terminer sur 2024. Vous avez aussi réalisé un film intitulé Les lanceurs de défis solidaires, circulaires, durables. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, alors c'était un film tourné en immersion dans ce qu'on pourrait appeler un tiers-lieu dédié à l'économie circulaire qui se trouve à Genève, qui est un lieu où on utilise, on met en avant tout ce qui s'appelle maintenant cette économie circulaire, c'est-à-dire basée essentiellement sur le réemploi afin de diminuer l'extraction de matières premières, c'est-à-dire que c'est un lieu qui regroupe plusieurs associations travaillant dans ce domaine-là, où tout un chacun peut venir soit racheter à bas prix des matériaux de construction, soit utiliser une bibliothèque d'objets où on peut venir emprunter soit une perceuse, un outil, une tente de camping ou n'importe quoi d'autre. C'est aussi un lieu où on peut venir employer après une petite formation sur place des machines à bois et à métal. Le lieu s'appelle la manufacture collaborative, abrégée MACO. Elle est co-financé par la ville de Genève, et on est dans cette logique d'économie circulaire où on espère à la fois avoir un impact moindre sur l'environnement parce qu'il y a moins d'extraction, donc moins de consommation énergétique, et puis aussi avec un objectif un peu de changement de mentalité où le but n'est pas de toujours tout de suite jeter ce qu'on a utilisé une ou deux fois. Et ce lieu est intéressant. D'ailleurs, il y a plusieurs projections qui ont déjà eu lieu de ce film en France, dans le Gard notamment, auprès de lieux un peu similaires, dans l'idée d'un échange d'expériences dans ce registre de l'économie circulaire.
D'accord. Depuis quand, Yves Maga, vous vous intéressez aux effets du réchauffement climatique ? Depuis tout le temps.
Je suis un vieux bonhomme, j'ai une longue carrière à la télévision publique suisse comme journaliste pendant 35 ans, et c'est vrai que depuis tout le temps, j'ai réalisé des reportages à gauche et à droite sur la planète concernant ces questions de changement climatique. C'est un peu l'avenir de, j'allais dire, de nos enfants. Maintenant, ce qui me concerne, c'est l'avenir de mes petits-enfants. Ouais. On peut pas passer à côté. C'est un des grands défis de notre société, de nos civilisations mondiales. Et c'est une thématique qui m'a toujours passionné, disons. Voilà, voir comment on subit ces changements climatiques et comment, surtout pour ne pas trop se plomber le moral, surtout comment on cherche à trouver des solutions et à s'adapter
et à consommer autrement
le plus possible, sachant que c'est une fois de plus toujours les régions déjà les plus pauvres, les régions du sud, qui seront les premières victimes de ces changements climatiques, soit par l'augmentation de la chaleur en région sahélienne, soit par la montée des océans dans le Pacifique et ailleurs.
Oui, on recevait il y a 15 jours un expert international dans la gouvernance de l'eau qui nous disait justement que la problématique de l'eau, on en parlait avec les BIS tout à l'heure et avec Gaëtan Morin, c'est la problématique de demain. Enfin, et on commence à s'en rendre compte aujourd'hui justement avec la fonte des glaciers, mais la ressource en eau sera un vrai problème et il faut que les politiques, que ceux qui nous gouvernent anticipent là-dessus.
D'autant plus que cette problématique aura et a déjà un impact sur les questions migratoires, qui est l'autre cheval de bataille instrumentalisé de tous les côtés, et ça ne fait que commencer. Lorsqu'il n'y aura plus d'eau, lorsque la sécheresse s'étendra, lorsque le niveau des océans montera, il y aura obligatoirement une augmentation des migrations, et plutôt que d'en être terrorisé, il faudra au contraire utiliser ce genre de ressources humaines. Mais là, c'est un vaste débat.
Ouais. Quels sont vos projets pour 2025, Yves Maga?
Je souffle un peu, pour être franc. Pour l'instant...
Vous habitez dans le Valais? Vous êtes vous-même originaire du Valais ou vous habitez dans le Valais?
Non, ma femme est originaire du Valais. Moi, je suis je suis franco-suisse, français et suisse. Et voilà, pour l'instant, je dirais que pour 2025, je vais surtout un petit peu être occupé par la diffusion des deux films, d'ailleurs.
Les accompagner.
Au cours de ces prochains mois, d'être sur place. Souvent, je suis invité pour participer à une discussion après la projection du film. Donc, j'ai pas en tête de prochain film prévu pour l'instant. Voilà, place aux jeunes, peut-être aussi.
Non, mais il faut continuer. Mais pour le moment, donc on a bien compris, vous accompagnez ces deux films-là que vous avez réalisés. Et c'est en 2024 que vous l'avez réalisé aussi, si les glaciers ne revenaient pas?
Oui, tous les deux films ont été tournés l'année dernière.
Combien de temps de tournage donc pour les BIS?
Combien de temps de tournage? Alors bon, il y a un jour précis de tournage en équipe complète qui était 12-14 jours à peu près, quelque chose comme ça. Moi-même, j'ai aussi tourné des séquences seul auparavant. Il y a eu pas mal de travail de repérage. Après, on était évidemment dépendant aussi des questions météorologiques, puisque bon, l'idée, c'est de tourner quand même quand les BIS sont en eau, puisque ces canaux d'irrigation ne sont pas en eau, évidemment, en hiver. Donc, ils sont en eau, en gros, depuis le printemps jusqu'à la fin de l'été. Oh, je dirais, après, il y a le temps de montage qui a été très long. J'ai eu la chance de travailler avec un excellent monteur français basé en Haute-Savoie, d'ailleurs, qui travaille lui aussi beaucoup pour France Télévisions, avec un bon caméraman aussi qui travaille beaucoup. Je dirais que, qu'est-ce qu'on va dire, tout compris, 3 mois.
D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, je me dois maintenant de vous remercier, à la fois Gaëtan Morard, donc le directeur de ce musée valaisan des BIS, vous-même, Yves Maga, et puis rappelez, vous l'avez dit tout à l'heure, que 2025 est une année importante. Alors déjà, je ne sais plus si Gaëtan Morard l'a dit tout à l'heure, mais l'UNESCO avait inscrit en 2023 l'irrigation traditionnelle au patrimoine immatériel de l'humanité.
Et donc, exactement, cette forme de gestion qu'on appelle ici de consortage, un terme qui est aussi utilisé d'ailleurs, j'ai appris récemment lors d'un colloque sur les communs, un terme qui est aussi utilisé dans la région de Chamonix en France.
D'accord. Et donc, comme vous l'avez dit, Yves Maga, 2025, l'UNESCO a désigné l'année 2025 comme l'année internationale de préservation des glaciers. Voilà, il me reste à vous remercier tous les deux, Gaëtan Morard et Yves Maga, de nous avoir reçus dans ce musée valaisan des BIS. Et je suis certain qu'avec Francky à la technique, qui réalise cette émission, ainsi que tous les auditeurs, nous étions ravis d'être à vos côtés et de passer un petit moment avec vous. À très bientôt, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours pour votre émission Mission Planète Terre, donc sur IDFM Radio.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.